Le programme de cette conférence, dans le cadre du jubilé d'Emmanuel, est proclamer l'Évangile à toute la création. C'est pour les frères et sœurs de l'Emmanuel, et je suis heureux de m'adresser à vous, mais aussi à tous ceux qui auront l'occasion d'entendre cette conférence, car l'appel est pour tous. Souvent, on parle de faire la volonté de Dieu. Or, quelle est la volonté de Dieu ? Saint Paul nous dit, dans la première épître à Timothée, au chapitre 2, verset 3, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. » Et les dernières paroles de Jésus dans l'évangile de Saint Marc sont « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. » Marc 16, verset 15. La communauté Emmanuel a été suscitée en notre temps pour reprendre cette évangélisation. On parle de nouvelle évangélisation, mais nouvelle évangélisation, évangélisation aujourd'hui, on peut dire c'est la même chose. Pour annoncer à tous les hommes que Dieu les sauve parce qu'il les aime. Et cette parole nous concerne. « Je t'ai établi, lumière des nations, pour que tu portes le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors ça vient d'Isaïe, mais c'est cité par saint Paul, en parlant de lui et de ses missionnaires, dans les Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 47. Alors, premièrement, comment faire ? Nous sommes petits, nous sommes sans force, comment allons-nous faire ? L'Emmanuel est né du renouveau pentecostal, du renouveau charismatique. Jésus, avant de lancer ses apôtres à l'évangélisation du monde, leur disait « Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit-Saint, qui descendra sur vous, et vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous avons tous reçu cette effusion de l'Esprit, et nous pouvons en demander le renouvellement chaque jour. L'Emmanuel, depuis sa naissance, il y a 40 ans, est allé jusqu'aux extrémités de la terre. Et même si chacun d'entre nous n'y est pas allé, nous sommes tous solidaires. Et donc, nous y sommes allés, ou bien nous irons avec chacun de ceux qui ira. D'ailleurs, pour l'évangélisation, le bout du monde commence au bout de la rue, aussi loin que le boulanger, le voisin ou notre lieu de travail. C'est pourquoi Pierre Goursat nous a appris à prier les uns pour les autres pour que nous ayons l'audace de parler de Jésus et que notre évangélisation porte du fruit. « Ce qu'aura fait l'un, disait-il, sera porté au crédit de tous. » Donc, dans nos maisonnées, nous ne partageons pas seulement la parole de Dieu, mais aussi ce que nous faisons pour parler de Jésus. À une époque, Pierre avait demandé au chef de maisonnée de tenir un cahier où étaient consignés les projets d'évangélisation de la semaine à venir et les actes qui avaient été faits dans la semaine précédente. Et il avait pris cette idée de la Légion de Marie. Et lorsque Pierre a fait faire ça, le dynamisme d'évangélisation du petit Emmanuel de l'époque a été multiplié par 10. Deuxièmement, qui évangéliser ? On se demande souvent, mais qui vais-je évangéliser ? La parabole du bon samaritain nous donne la réponse. Mon prochain est celui que je rencontre et qui est blessé parce qu'il ne connaît pas l'espérance. Veronica O'Brien, qui avait fondé la Légion de Marie en France et dans plusieurs pays, disait « Personne n'est trop loin de Dieu que je ne puisse lui dire un mot pour l'aider à s'en rapprocher un peu. Et personne n'est trop près de Dieu que je ne puisse lui dire une petite parole pour l'aider à s'en rapprocher encore. » Alors, j'ai l'habitude, quand je parle aux jeunes des écoles d'évangélisation, de raconter, mais ça serait trop long, comment, lorsque j'avais l'occasion de rencontrer Jean-Paul II à la messe privée, je préparais, avec l'aide de l'Esprit-Saint, une petite parole pour lui dire. Et ça marchait. Alors, une petite parole, par exemple, je rencontre un mendiant dans la rue. Je peux lui donner une pièce, mais je peux aussi lui donner quelque chose pour son âme. Dire par exemple que le bon Dieu vous bénisse. Donner une image de la crèche et lui demander de prier pour nous. Un artisan qui travaille, que je rencontre dans la rue, on peut le féliciter de son beau travail. Lui souhaiter une bonne journée et lui dire à la fin que le bon Dieu vous bénisse. Et bien justement, nous est arrivée cette histoire en décembre avec un ami de l'Emmanuel. Nous attendions la camionnette de livraison des brochures d'évangélisation parce que c'était au bout d'un chemin étroit et malaisé. Au lieu d'une camionnette, au bout de 4 heures d'attente, se présenta un énorme camion qui frottait les haies et qui arrachait les pierres. Le déchargement fait, nous avons parlé un peu avec le chauffeur. Il était probablement musulman. « Vous avez un travail rude et fatigant. Merci. Que Dieu vous bénisse. » Et nous lui demandons d'où il était. De Guinée française. Nous lui avons alors parlé du dispensaire de Matoto, de la Fidesco, et avec les volontaires qui s'y succèdent pour soigner les gens. Remonté dans sa cabine, et au moment de partir, il baisse la glace et il nous lance « C'est beau ce que vous faites ». Il disait ça pour Matoto. « Que Dieu vous bénisse. » Et il démarra. C'est dans la prière, spécialement dans l'adoration, que notre évangélisation se prépare. Nous supplions Jésus d'être dans notre cœur pour être avec lui, Emmanuel, et ainsi avoir compassion de ceux qui ne connaissent pas l'amour de Dieu, de ceux qui n'ont pas d'espérance, pour être avec lui le bon samaritain pour les blessés de la foi, les incroyants, les athées et les indifférents. J'ai dit combien les maisonnées constituent le lieu du dynamisme de l'évangélisation, car l'Esprit Saint nous stimule les uns par les autres. Dans le monde, on parle de culture d'entreprise. Dans l'Emmanuel, notre culture d'entreprise, c'est l'évangélisation. Plus nous voyons les frères évangélisés, plus nous entendons témoigner et plus nous sommes portés à saisir l'occasion, à parler et à témoigner nous-mêmes. Parce qu'à travers des histoires concrètes, eh bien, nous avons ça dans notre mémoire et l'Esprit Saint s'en sert pour nous faire trouver la phrase ou l'occasion lorsque nous sommes avec quelqu'un dans la rue, dans le train, etc. Dans la Légion de Marie, ils ont cette culture d'évangélisation. Non seulement ils ont le cahier où l'on note actions et projets, mais ils ont une revue où l'on donne des exemples concrets. Comment on a parlé à tel type de personne, comment on a engagé la conversation, sur quel accident de la conversation, etc. Pierre Goursat avait été l'un des premiers de la Légion de Marie en France. En 1940, il est allé en bicyclette, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il n'avait pas une bonne santé, il est allé en bicyclette de Paris à Nevers pour rencontrer une personne dont tu avais dit qu'elle fondait quelque chose d'extraordinaire, la Légion de Marie. C'était justement Véronica O'Brien. À l'exemple de la Légion de Marie, donc, Pierre invitait à donner des témoignages pendant les fins de semaine communautaires. Et le premier numéro avec lequel il a commencé Il est vivant était tout simplement rempli de témoignages des premiers charismatiques. C'est notre culture, c'est ça notre appel, c'est ce à quoi nous sommes envoyés. Troisièmement, envoyés. Comment sommes-nous envoyés ? Tout baptisé est envoyé. C'est très important. En continuité avec toute l'histoire du développement du christianisme, le code de droit canonique qui a suivi le Concile Vatican II énonce. Parce que, comme tous les fidèles, ils sont chargés par Dieu de l'apostolat en vertu du baptême et de la confirmation, les laïcs sont tenus par l'obligation générale et jouissent du droit, individuellement ou groupés en association, de travailler à ce que le message divin du salut soit connu et reçu par tous les hommes et par toute la terre. Le droit et l'obligation d'évangéliser ont donc un fondement sacramentel. On dit les prêtres par le mystère le sacrement de l'ordre ont un fondement sacramentel pour leur ministère. Mais les laïcs aussi ont un fondement sacramentel pour l'évangélisation, qui est non seulement un droit, mais un devoir, ce sont les sacrements du baptême et de la confirmation. Les statuts de la communauté Emmanuel ont pris au sérieux cet envoi en mission, négligé, ignoré souvent dans la période où a commencé l'Emmanuel et qu'il est encore jusqu'à maintenant dans bien des milieux de l'Église. Relisons dans les statuts les articles définissant le but, la fin de la communauté. Et je dirais, pour mieux les comprendre et les retenir, prenez 5 minutes pour les écrire, de façon au moins les avoir entendus, que ça descende dans votre cœur. C'est une parole de Dieu pour nous, puisque ces statuts ont été reconnus par le Rome. C'est notre programme reconnu et encouragé par Rome, article 1. La communauté rassemble des fidèles, Christi fideles, c'est-à-dire les laïcs, les consacrés et les prêtres, de tous états de vie qui désirent s'engager ensemble dans une vie à la fois contemplative et apostolique au sein de l'Église catholique. Article 3, la communauté, par la vie fraternelle et par des activités entreprises ensemble, se propose la sanctification de ses membres et la participation au but apostolique général de l'Église. Et ici c'est développé, cette participation à la mission de l'Église associe la communauté à l'évangélisation des croyants et des non-croyants, des personnes et de la culture, au service des malades et des pauvres, à la promotion humaine, spirituelle, familiale et sociale. Toutes ces activités, même culturelles, caritatives et sociales, sont faites explicitement au nom de Jésus-Christ et sont accompagnés de l'annonce de la bonne nouvelle. Et comme si cela ne suffisait pas, car l'esprit d'évangélisation a tellement besoin d'être ravivé, enfin avait besoin en cette fin du XXe siècle et a besoin en ce début du XXIe siècle, les papes nous ont encouragés et confirmés dans cette mission d'évangélisation. En décembre 1979, et j'en suis le premier témoin, Jean-Paul II nous disait à propos de l'évangélisation directe, « Allez, dites-leur l'amour du Christ et de l'Église. » En 1992, le décret pontifical de reconnaissance de la communauté au niveau de l'Église universelle, puisque nous étions reconnus déjà depuis 10 ans par de nombreux évêques, donc le décret de reconnaissance déclare l'appel du Saint-Père à la nouvelle évangélisation ne fait que confirmer la vocation de la communauté Emmanuel à participer à l'accomplissement de la mission de l'Église dans le monde actuel. Vous savez, quelquefois, on dira, on a fait ça, c'est parce que le pape l'a dit, c'est parce que le pape a fait telle lettre apostolique. Mais non, ce qui est extraordinaire, justement, c'est que l'Esprit Saint nous a poussés à évangéliser. Et que au moment où on difficultait parce que personne n'y croyait, on disait mais c'est pas bien, qu'est-ce que vous faites, etc. Eh bien arrive la voix du pape qui confirme officiellement ça et qui même répond aux difficultés, comme Paul VI avec Evangelii Nuntiandi. C'est quand même plus fort de comprendre et de montrer aux autres que l'Esprit Saint agit et dans la tête de l'Église et dans ses membres et qu'il y a une correspondance. Enfin, à Martin Cata, lors du synode des évêques sur l'Europe, Jean-Paul II déclarait solennellement devant des témoins « L'Emmanuel, c'est l'avenir de l'Église ». On peut dire qu'il confirmait encore cette vocation. Et il y a un an, le pape Benoît XVI nous disait « Dans un monde souvent désorienté et à la recherche de nouvelles raisons de vivre, la lumière du Christ doit être portée à tous. Soyez, au milieu des hommes et des femmes d'aujourd'hui, d'ardents missionnaires de l'Évangile, soutenus par une vie radicalement saisie par le Christ. Ayez soif d'annoncer la parole de Dieu. » Ainsi, il est clair que le charisme d'évangélisation de l'Emmanuel n'est pas simplement un enthousiasme spirituel, il n'est pas un élan soudain du modérateur, il n'est pas réservé à certains moments comme les congrès d'évangélisation des grandes villes ou les journées mondiales de la jeunesse, il n'est pas réservé aux élèves des écoles d'évangélisation ou à certains spécialistes, c'est notre appel général et notre charisme. L'évangélisation, c'est la participation à la mission apostolique générale de l'Église depuis les apôtres jusqu'à maintenant, et nous ne serions pas chrétiens si quelques-uns ne l'avaient pas accompli. Tout cela, nous le savons, nous le vivons, mais il faut encore réveiller le don de Dieu que nous avons reçu et aller plus loin ensemble. Le Concile de Vatican II a expressément donné, dans le décret Apostolicam Actuositatem, l'autonomie aux laïcs pour l'évangélisation. Jusque-là, en effet, l'évangélisation des laïcs était considérée, à tort ou à raison, comme subordonnée aux prêtres et à la hiérarchie. L'Action catholique, par exemple, en France, avait un mandat de l'épiscopat. Le Code de droit canonique a mis en œuvre cette autonomie décidée par le Concile, ce droit et ce devoir de tous les baptisés à évangéliser. De même, les canons sur les associations de fidèles ont donné l'ouverture à l'action solidaire des nouvelles communautés pour l'évangélisation. Non, il n'est pas nécessaire d'avoir une paroisse, comme on l'entend quelquefois, pour évangéliser. Vatican II a donné la base concrète qui structure et légitime toute notre action. Le charisme et l'appel de la communauté pour l'évangélisation sont ainsi à la fois le fruit de l'Esprit-Saint par le renouveau pentecostal et l'effusion de l'Esprit, mais aussi le fruit de l'Esprit-Saint à travers le Concile. Avant de continuer, je voudrais vous montrer les reliques avec lesquelles j'évangélise et les saints auxquels j'ai confié cette conférence. Ça, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est une petite relique qu'on m'a donnée au Carmel de Lisieux et un morceau de ses vêtements. Et puis ça, c'est de la poussière des ossements du bienheureux Père Monnoir, qui a fait 450 missions paroissiales en Bretagne au XVIIe siècle et dont peut-être vous aurez la curiosité de chercher l'histoire. Il n'y a pas trop de moyens et d'aide dans l'évangélisation. Il y a l'Esprit-Saint, mais aussi tous ceux qui nous ont précédés sur cette grande route d'annonce de l'Évangile. Alors, quatrièmement, un charisme pour le monde et pour l'Église. Bien entendu, nous avons l'humilité et le bon sens de penser que ce n'est pas à nous tout seuls que nous pourrons suffire à la nouvelle évangélisation. Mais nous avons notre part à donner, non seulement dans l'évangélisation du monde, mais aussi dans le réveil de l'esprit missionnaire dans l'Église. C'est ça le charisme, susciter chez les autres le mouvement que nous avons reçu de l'Esprit-Saint. Rien ne doit nous arrêter parce que l'Esprit-Saint à travers nous veut mettre d'autres en mouvement. Cette culture d'entreprise de l'évangélisation, nous devons la communiquer à tous les chrétiens, à toute l'Église. Un exemple très concret, dans la campagne « Pour redonner le sens de Noël », entreprise avec Patrick Hooper depuis 3 ans, ce sont les paroissiens, les chrétiens n'appartenant pas à l'Emmanuel, ni même à une communauté nouvelle, qui entrent dans cette campagne en distribuant tout autour d'eux les images de la crèche quelques semaines avant Noël. Nous avons initié et nous animons une campagne là qui se réalise en dehors de nous et qui fait participer, qui s'insinue dans l'esprit de ces Christi fideles, de ces laïcs qui n'ont pas d'engagement particulier. Ainsi, la culture d'évangélisation commence à pénétrer l'Église de différentes façons. Il y a aussi, bien sûr, les chants du carnet vert de Paray le Monial qui, depuis 25 ans, ont redonné un esprit de foi et de louange dans la liturgie. Mais alors, que le sel dont nous avons reçu de façon extraordinaire la grâce, même si c'est nous le mettons en œuvre de façon très humble, que ce sel ne s'affadisse pas. Malheur à moi si je n'évangélise pas, dit saint Paul. Sommes-nous donc des types extraordinaires? Non, comme Pierre Goursat, et plus que lui, bien sûr, nous sommes des petits, nous sommes limités, et je dirais, nous sommes des pécheurs. En tout cas, moi, j'en suis. Puis-je évangéliser, cinquième partie, puis-je évangéliser si je suis un pécheur? Certains aujourd'hui commencent à nous dire, et je dirais que ça me chauffe un peu les oreilles, vous ne pouvez pas annoncer ce que vous ne vivez pas. Hein, et vous ne pouvez annoncer que ce que vous vivez. Ben, peut-être pour la morale, mais en ce qui concerne l'évangélisation, dans ces conditions, seuls ceux qui sont déjà des saints pourraient évangéliser. Bon. Même le père Mounoir était-il un saint quand il a commencé la première année des 45 années de mission qu'il allait faire? Bon. C'est peut-être votre cas, hein, d'être parfait, vous pouvez évangéliser, mais ce n'est pas le mien. Une jeune Chinoise à l'école d'évangélisation à Manille, là, il y a 3 semaines, répondait à cela. C'est en évangélisant que nous deviendrons des saints. Jésus avait prévu que nous ne serions pas tous des saints, mais il a voulu quand même nous faire annoncer le royaume de Dieu. Il y a d'abord l'exemple de la Samaritaine, tout au début de l'évangile de Saint Jean. La plus grande pécheresse connue du village va chercher les gens pour les amener à Jésus. Et ils viennent. Est-ce une exception? Ils n'ont pas dit, oh ben écoute, hein, quand tu seras converti, que tu seras une sainte, hein, on ira voir si Jésus est encore là. Bon. Est-ce une exception? Non, il y a une parabole dans l'évangile assez étonnante et qui donne souvent beaucoup de sueur aux prédicateurs entre nous. C'est dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 16, versets 1 à 12, elle est appelée la parabole de l'intendant infidèle. Vous savez, celle dans laquelle l'intendant qui va être licencié appelle les débiteurs de son patron, hein, et leur fait réécrire leur reconnaissance de dette en la diminuant du tiers, voire de la moitié. Tu devais 30 000 euros, ben écris, puis tu fais une reconnaissance pour 15 000 euros. Et alors, il fait cela pour avoir des amis quand il sera à la porte. Le patron dit que ce type est réellement astucieux et fait son éloge. C'est assez étonnant. Et Jésus lui-même fait l'éloge de cet intendant astucieux. Et il donne son sens à la parabole pour que nous comprenions le message. Voici ce qu'il dit. « Eh bien, moi, je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent mal gagné, afin qu'au jour où il viendra à manquer, ceux-ci vous accueillent dans les tentes éternelles. » Qu'est-ce donc que les tentes éternelles? Sinon le ciel, la vie éternelle. Qu'est-ce que l'argent mal gagné? C'est là la clé. L'argent, c'est Jésus-Christ, ses mérites et sa grâce. Lorsque nous évangélisons, nous sommes comme l'intendant fidèle. Nous disposons de la grâce et des mérites de Jésus-Christ. Nous puisons dans ses trésors à pleine main. Nous disposons de cela pour ceux que nous rencontrons, pour les donner à ceux que nous évangélisons, diminuer ou éteindre leurs dettes. Et ce seront eux qui intercéderont pour nous, pauvres pécheurs, afin que nous soyons pardonnés et accueillis au ciel dans les tentes éternelles. Sixième partie. Et maintenant, que faire? Il y a 40 ans, en février 1972, Pierre et Martine recevaient l'effusion de l'Esprit et accueillaient l'appel de Dieu à prier ensemble et à évangéliser. Ce don, cet appel, c'est pour nous aujourd'hui. Nous aussi, nous avons reçu l'effusion de l'Esprit. Esprit de Pentecôte, disait Pierre. Quel que soit le champ de l'évangélisation, de notre évangélisation, de notre compassion, de la promotion de la famille ou d'une société plus humaine, que ce soit l'évangélisation de la culture, le porte-à-porte des missions, l'évangélisation de nos proches et de ceux que nous ne connaissons pas, que ce soit la communication de ce feu à l'Église, là où nous sommes et là où nous sommes envoyés, la charité du Christ nous presse. Nous avons reçu une force, celle de l'Esprit-Saint, pour témoigner de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia.